아빠 죽는다더니 에피에 하나씩 시대 그러다 미래를 마시마하던 분이기에 라멜 그다음 사진 대올람 이슈아의 콘서마다가 이 마시아다 일파에 d'après ce verset, nous comprenons qu'il faut définir cette part de donner à tout Israël comme étant la participation de l'identité individuelle à l'identité globale, collective, clanique d'Israël, qui elle est définie dans sa généralité par le verset de la mère Kulam Tzadiki, puis dans la Brina, dans la catégorie du Tzadik. C'est une définition que nous aurons de nouveau à reprendre tout à l'heure. Mais je ne peux pas revenir dans tous les détails comme hier, sinon ça nous prendrait le même temps ou un peu plus. Et ceci pour introduire le corps même, inside le corps même de la Mishnah, il y a un certain nombre de catégories d'individus qui peuvent perdre ce chélek, perdre cette part. Nous avons eu hier déjà une très longue discussion sur la notion de l'excommunication, et vous avez dû remarquer qu'il ne s'agit pas ici du tout d'excommunication. C'est un tout autre processus qui nous est écrit. Un certain nombre de formules, lorsqu'elles sont dites de façon engagée, lorsqu'elles expriment ce que chacun, à l'échelle individuelle, dit de sa règle de conduite dans son histoire, dans sa destinée, dans son existence, finalement, le mène quelque part, et le mène parfois ailleurs que sa destination propre, qui est le Chelek La'olam Haba. Et ici, la Mishnah prend acte que certaines prises de position expriment, sont le signe, décèlent, disent que finalement il y a échec dans ce projet d'identité. Enfin, pour résumer cela très, très brièvement, de ce que nous devons dire. Mais chaque fois, cela porte sur la relation entre l'individu, l'identité individuelle et cette identité collective. Il y a, pour le dire d'une autre manière, il y a une manière d'être Israël, telle que la Torah le décrit, telle que le récit de la Bible le décrit, qui va au monde à venir. Avec le monde va au monde à venir, et puis il y a une lignée centrale qui, par nature, va vers ce monde à venir. Quiconque à l'échelle individuelle s'est coupé de ce courant n'y va plus. Et simplement on prend acte. Quels sont les indices, quels sont les signes par lesquels ce jugement peut être établi. Et encore une fois, c'est beaucoup plus peut-être, certainement, un jugement d'existence qu'un jugement de valeur. Il y a donc, bien, je pense que c'est suffisamment clair, je ne reviendrai pas sur ce thème, sauf si d'autres questions se posent. Il n'y a pas ici un processus d'évaluation qui mène à une excommunication. Il y a un jugement de réalité, on prend acte que tel individu c'est finalement déconnecté de cette identité globale, collective, centrale, qui elle a se définir par Chelek La'olam Haba. Et la Mishnah établit les formules qui, exprimées par tel ou tel individu de façon engagée, sont le signe de ce déconnectement. Est-ce que c'est suffisamment? Quoi qu'il en soit, le fait que ces formules expriment des opinions et pose un problème à la Gemara. Comment une opinion, même si l'opinion est le signe d'une dénaturation, d'une altération de l'identité, et donc c'est à un niveau très haut qu'il faudra évaluer la signification de l'opinion. Et toute petite parenthèse pour éclairer cela. Et lorsque nous parlions hier d'erreurs qui deviennent des fautes au niveau de la connaissance, ça ne peut être que l'erreur du Talmid Chacham, pour le dire en hébreu. Et de qui l'erreur est, par rapport à qui, si vous voulez, à quel niveau l'erreur peut avoir cette conséquence d'un changement d'identité, d'une altération, du fait de nature d'avoir été Israël, de celui qui est capable de connaissance. D'un ignorant ne parlera pas d'erreur. Vous vous rappelez de la formule du Zaken Mamré que j'ai cité hier. Ce n'est pas lorsque n'importe qui dit telle ou telle bêtise, mais c'est du terme, en fait, je ne sais pas. Non-sens.
Il s'agit de reniement,
mais à un certain niveau. C'est-à-dire, ce n'est que lorsque on sait ce que l'on dit, que ce que l'on dit a une importance. Bien entendu, ça c'était sur le Haomer, celui qui dit. Ça dépend qui dit, qu'est-ce que ça fait. Mais malgré tout, j'en arrive tout de suite au sujet d'aujourd'hui, c'est il y a un décalage, une disproportion entre une opinion et d'autre part cette dimension métaphysique qui fait que Israël se définit par le Chelek HaOlamot. Donc c'est jusque-là. Et c'est pourquoi la Gemara commence par poser la question de la manière suivante, une question très forte. Et quoi le cas, la main, et tout cela, pourquoi, de quoi s'agit-il, à Omer, celui qui a dit, empruntant la formule, qui est imputée au Sanhédrin, et nous aurons à la préciser, la Torah n'enseigne pas la résurrection des morts, celui-là perd cette dimension, encore une fois, ontologique d'identité, du Chelek HaOlamot. Voilà la Gemara demande, et quoi le cas, la main. Et tout cela, je crois qu'il faut surtout retenir cela, cette disproportion entre la conséquence catastrophique, avoir perdu le sens d'une destinée entière, et d'autre part une opinion. Bien entendu, encore une fois, ce n'est pas une opinion de légèreté, c'est une opinion grave, c'est une opinion qui exprime une altération, mais ce n'est quand même qu'une opinion. Et donc, c'est très bien. Alors, la Gemara est un âme. Celui dont on parle, l'hérétique dont il est parlé ici, Kafar Bitriyat Amitim, a nié, a renié la résurrection des morts, mais Fichach, le Yolo Chelek Bitriyat Amitim. Et c'est pourquoi, comme si c'était une conséquence automatique, vous voyez, jugement de réalité, on prend acte d'un processus. Il est lui-même la cause de sa conséquence. Mais Fichach, c'est pourquoi Yolo Chelek. Il n'aura fourni pas de part à la résurrection des morts pour traduire provisoire. Et donc, vous rappelez ce décalage entre la formule de la Gemara et la formule de la Mishnah. La Mishnah dit que Israël et Shlaem Chelek la Olam Abba, Venu Shemaem Chelek la Olam Abba. La Gemara dit Hu Kafar Mitriat Ametim. Lefichach, lo yé lo chelek, lo yé lo chelek, bitriyat amet. C'est là que nous étions arrivés. Alors, je reprends très brièvement l'explication, et ensuite nous allons étudier tout de suite le commentaire imputé à Rashi. Et du commentaire imputé à Rashi apparaîtra un éclairage nouveau. C'est-à-dire que, triyat amet, il l'aura. Mais il n'aura pas chelek, bitriyat amet. Il n'aura pas part à la finalité de la triyat amet. Mais on peut supposer, effectivement, beaucoup de textes du même chapitre par la suite impliquent que, je vais dire pour le moment, des approximations, tous, dans le sens le plus grand nombre, auront cette résurrection de la présence personnelle. Nous parlons par postulat. Certains de ces postulats ont été déjà éclairés hier. Mais enfin, bien évidemment, il nous faut une cohérence au départ. J'entends bien que le concept de triat amétine est mystérieux. Et qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est mort, à quelque époque que ce soit de l'histoire du monde, un jour et tous ensemble, ressuscitera en personne. Et tant que nous n'avons pas expérience, nous ne savons pas l'écrire. Enfin, admettons que les hachamim qui parlent dans ces textes savent de quoi ils parlent. Je pense que c'est clair qu'on peut s'y admettre. Et donc, ils seront appelés à la restitution de la personne. Là, je voulais expliquer de quoi s'agit-il. Que l'âme est sa propre destinée, ça peut s'éclairer par une étude appropriée. Et en hébreu, l'âme n'est pas dite immortelle, on n'a même pas à dire de l'âme qu'elle est immortelle, parce que le concept de mort ne correspond pas à la catégorie de la neshama, à la catégorie de l'âme. Sa manière d'être, c'est d'être vivant. Donc, sa manière d'être est d'être éternel. Par conséquent, l'idée de la résurrection des âmes n'est pas une idée homogène aux catégories hébraïques. Et il ne s'agira pas de triat aneshamot, parce que la neshama est chaya. Sa manière d'être, c'est d'être la vie. Par conséquent, il n'est pas parlé ici de la destinée de notre âme. Il n'est pas non plus parlé de la destinée du corps. Le corps est inséré dans le processus historique, qui devient lui biologique, de l'histoire naturelle. Le corps fait partie de l'histoire naturelle. Mais nous sommes une personne qui apparaît dans la synthèse, dans l'incarnation, si j'ose dire, d'une âme et d'un corps. C'est une catégorie très, très simplifiée, mais enfin, nous l'apprendrons comme postulat de départ. Or, lorsque nous parlons de la destinée des personnes, de qui s'agit-il? De la personne telle que nous la connaissons entre la naissance biologique et la mort biologique. il y a un quelqu'un, et ce quelqu'un c'est moi, c'est chacun, qui apparaît dans ce processus qui échappe à notre intelligence, qu'une âme et un corps ont été joints, puis disjoints. Et puis ce quelqu'un disparaît lorsque l'âme et le corps sont disjoints. Lorsqu'il est parlé ici de triatamétime, il s'agit de la résurrection des personnes. C'est-à-dire la conscience de la présence de moi à moi-même avec ma mémoire. C'est de cela dont il s'agit dans le problème de ma destinée. Par conséquent, d'une certaine manière, l'acte de foi qu'il y a ici, c'est que tous ceux qui ont été appelés à l'existence en personne, et c'est le sens du mot « net » en hébreu, « Bimtemerat » par exemple, avec un petit nombre de personnes. Notre nature en tant que personne terrestre, biologique, est d'être mortelle. Notre personne est mortelle. C'est elle qui est affectée du processus de la naissance et de la mort biologique. Or, comme que mon âme est une destinée compréhensible, c'est très important, mais ça ne concerne pas ma personne, c'est mon âme. Que mon corps est une destinée intelligible, c'est très important, mais ça ne concerne pas ma personne. L'objet, ici, de la Emouna, c'est que ma personne a un sens, et qu'il n'y a pas l'absurde de l'arrêt brutal au moment de la mort biologique. C'est cela qui est appelé triatamie. Bon, nous pouvons en parler dans différentes dimensions, mais c'est pour bien caractériser ce dont il est parlé ici. Donc, si nous restons dans la cohérence de signification du mot, c'est bien, comme commence par le dire la Bible, comme nous l'avons vu hier, c'est bien Dieu le Créateur qui m'a créé comme personne dans le monde, alors m'a destiné un sens. Donc, la mort biologique ne peut être que provisoire. Je le sais parce que je sais que c'est Dieu qui a créé le monde. Si mon existence est le résultat de quelque hasard possible, le problème ne se pose pas en catégorie talmudique. Mais si nous sommes dans la cohérence talmudique, il va de soi qu'il doit y avoir la résurrection des personnes, même pour ceux qui sont disqualifiés par l'histoire. Et là, nous retrouvons le jugement de valeur morale, même pour les Réchaïm. Les Réchaïm aussi ont droit à la résurrection des personnes. Ce qu'a dit la Gemara, c'est qu'ils n'ont pas de chélek dans cette triatamétime. C'est pas qu'ils ne participeront pas à la triatamétime, ils participeront à la triatamétime. Mais on n'aura pas pour eux la perspective de la survie. Voilà, donc je voudrais en faire vraiment très, très schématique. Alors je reprends la formule. Tana, vous kafar du triatamétime, lui a nié la résurrection des morts. Or, quelle était la formule de la Mishnah? Haomer, en triatamétim, mina Torah. Vous entendez tout de suite, c'est pas nécessaire que je mette au tableau, la différence des deux formules. La Gemara dit kafar et triatamétim, un point. Il a nié la résurrection des morts. Mais la Mishnah avait dit, celui qui dit, il n'y a pas de triatamétim de la Torah. C'est clair? C'est la différence. Les Firach, c'est pourquoi, nous lignons le chélek du triatamétim, et ce chélek du triatamétim, c'est bien évidemment le chélek la Olam Haba. Je reviens sur un livre que nous avons lu, peut-être un peu trop rapidement. C'est que, pour l'hébreu, pour la conscience hébraïque, et ici, le Talmud des Juifs en est l'héritier. Mais du temps a passé devant l'évidence d'expérience de la conscience, par rapport au temps d'expérience d'évidence de la conscience hébraïque. Au temps des Hébreux, ça va de soi que ce monde-ci même a un monde à venir. C'est une évidence qui n'a pas à être enseignée. Mais on dit d'une autre manière. Il faut faire cet effort d'imagination de savoir que la tradition juive est héritière d'une tradition des Hébreux et que les Hébreux vivent dans un monde où la révélation a été immédiatement expérimentale. Nous vivons par rapport au monde des Hébreux dans un monde occulté, dans un monde où les évidences hébraïques doivent être récupérées par nous dans la dimension de la foi et de la connaissance. Mais au temps des Hébreux, c'est une perception. C'est suffisamment clair, on peut analyser, mais ça nous fait prendre énormément de temps pour cela. Gardons cela comme postulat. Lorsque on est suffisamment réhébraïsé pour être de plein pied dans le monde du texte biblique, alors on s'aperçoit qu'il s'agit d'un monde qui est le nôtre, mais un peu différent, avec en plus toutes les évidences immédiates qui s'atténuent par le temps qui nous distancie du temps des Hébreux. Or, pour l'hébreu, que le Olam Hazé mène à Olam Haba, ça va de soi, de ça on ne parle pas. C'est une certaine manière de percevoir le monde, qui est fondamentalement optimiste, mais c'est ça la conscience hébraïque. Je pense que c'est bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que c'était contemporain au temps des Hébreux dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés ont connu leur expérience spirituelle au temps de la prophétie comme étant l'expérience d'en aller quelque part. Chaque société, suivant son équation personnelle, a considéré son paradis et son enfer à sa manière, mais dans toutes les traditions de ce temps-là, il était évident qu'un Olamazé mène un Olamaba. Je pense que c'est... La difficulté, c'est Triadamétique. La difficulté, c'est le fait que ce processus du monde qui fait que Olamazé mène à Olamaba me concerne moi individuellement. La difficulté, l'obstacle, c'est l'idée de Triadamétique. C'est clair ? Bon. Voilà, il semble qu'il y ait une tension entre ces deux notions, mais si nous avons le temps, nous pouvons étudier assez en détail le premier psaume, qui parle de trois catégories de personnes du point de vue de ce problème de la destinée. Les tzadikim. Pour les tzadikim, tout est simple. Leur chemin est le chemin qui mène de Olamazé à Olamaba. Il parle des hataïm, des rishaïm, et puis de l'etzim. De l'etzim se perd en route. Et cela n'arrive pas à Triat HaMetim, mais les hataïm arrivent à Triat HaMetim. Et puis traverse Triat HaMetim, et non aussi Olamaba. Alors que les Rishaim arrivent à Triat HaMetim, mais ne traversent pas Triat HaMetim, et non pas Olamaba. Tout l'effort de la Gemara, c'est de faire que le plus grand nombre soit sauvé. Est-ce que c'est suffisamment clair?
Je pense que c'est Hataïm.
Comment?
Hataïm, c'est quoi?
Hataïm. Bon, alors je vais. Je vais d'ailleurs vous dire.
Bon, ben, laissez les
Non, je vais agresser. Ouais, on a encore quelques jours avant d'arriver à la journée. Nous pouvons lire ça très rapidement. Alors, vous notez qu'il s'agit du premier psaume, tout simplement. Voilà. Asher Aish, Asher Lohalach. Barasa Teshaim, que je trouve le texte. Heureux l'homme qui n'a pas marché dans le conseil, dans le projet des méchants, Recharim, vous tenez le terme, ou heureux Hataïm ou Hamad, qui ne s'est pas tenu sur le chemin des Hataïm, des pêcheurs, ou Moucha Vekim ou Yachar, et qui ne s'est pas assis à l'endroit où ça s'est, et les moqueurs. Quelle est la différence? Le Rachar est celui qui se met hors la loi, qui refuse le principe de la loi. Le choté, c'est celui qui accepte la loi, mais qui faute par rapport à la loi. D'ailleurs, d'une certaine manière, le rachat, sa position consiste à dire qu'il n'y a pas de loi. Il est hors la loi. Dans le rachat, il y a une révolte sur le principe même de la loi. Le choté, il y a une loi, mais c'est la mienne. Et c'est ça une faute. D'une certaine manière, paradoxe, mais enfin, je vous dis quand même, on ne peut pas dire que le rachat fait des fautes. Il est hors la loi. C'est pire. Hein? Tandis que le Choté, lui, a accepté la loi, seulement il veut l'appliquer à sa manière. D'une certaine manière, la faute du premier homme n'était qu'une faute, c'est un chet, Adam Arishon. Non, une loi, mais c'est la mienne. Le maître, c'est celui, je paraphrase beaucoup très rapidement, c'est celui qui a négligé une loi. Mais sa position est terrible, elle ne sert à rien. Il y a une loi, mais elle ne sert à rien. Ça, c'est le maître. Je vais vous donner très rapidement un exemple parallèle. Que j'essaye d'imaginer par rapport à la prière. Le rachat, c'est celui qui consisterait à dire il n'y a pas de porte. La prière, c'est se mettre devant une porte et demander. Et le rachat, il n'y a pas de porte. Le chanté dira il y a une porte, mais il n'y a pas de clé. Et le maître dira il y a une porte, il y a une clé, mais ça ne sert à rien d'ouvrir.
Voilà, grosso modo, j'en ai pas.
Alors, qu'est-ce qu'il arrive? Le tzadik, donc, qui n'est ni rachar, ni choté, ni met, qui est le Torah Tachem Khrepto, le Torah Tereke, le Mavalaïla, et là, il sera, qui est Chatou d'Alpalgemaïm, comme un arbre transplanté sur le couteau. Et là, je ne ferai pas, mais vous voyez, Chatou de Panatoua, Chatou, ça veut dire il n'est pas dans sa pépinière, mais il est transplanté dans une autre pépinière, si on peut dire comme ça. Donc, c'est un métier. Et à chaque lieu, il donnera son fruit en son temps, vers l'eau, il vole, même son feuillage ne se pétrira pas, mais relâchez la racine, tout ce qu'il fait, il le réussira. C'est la destinée du tzadik. Morhen al-Shaï. Les rachaïs ne seront pas ainsi. Ils, comme eux, s'achètent des feuilles nouveaux, mais ils seront comme l'enveloppe du grain que le vent repousse. Al-Kem, mais la koumou rachaïm amishpat. Et c'est pourquoi les rachaïs ne se dresseront pas au jugement. Ça veut dire qu'ils seront appelés au jugement. Nous n'aurons pas le chélek du triatamétien. Le chélek, le triatamétien, t'as mis le chélek. Là, on a fait. Le chataïm aura un chélek, mais pas au même niveau que le tzadikim. Vous voyez que c'est moins grave de faire une faute que d'être hors la loi. Les rabbins du Talmud disent à peu près comme ça. Celui qui dit il ne faut pas mettre de tefillin, celui-là c'est un rachat. Il a refusé le principe de la loi. Celui qui dit il faut mettre des tefillin, mais il faut les mettre ronds et pas carrés, celui-là c'est un chanté. Vous voyez à peu près la différence. Qui aurait arraché derrière Tzadikim, mais derrière Rechaim Torah. Car Dieu connaît le chemin des justes et le chemin des méchants se perdra. Oui, de l'Echrechaim Tore, on peut citer ce verset pour le raisonnement de la Gomara, Mida Kelied Mida. C'est le chemin de l'Echrechaim lui-même qui se perd. De l'Echrechaim Tore. Bon, alors, je vais donc résumer tout cela. Les Echrechaim sont appelés à la Triatamit, c'est clair. Ils n'ont pas chélé du Triatamit. Et encore une fois, tout l'effort de la Gomara, c'est d'essayer de sauver le plus grand nombre. Nous avons parlé de cela hier. Et voilà l'explication qui vient maintenant. Chez Kol Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu. Parce que toutes les mesures de la Kadosh Baruch Hu, de Dieu, je vais l'appeler comme ça, c'est Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. C'est-à-dire, la formule est la suivante. On te fera comme tu as fait. C'est le chemin que tu as choisi qui te mène là où il te mène. Et ce n'est pas une condamnation. C'est pire que ça. C'est le fait de prendre acte qu'une certaine conduite mène quelque part. Donc c'est bien dans le sens que nous avons eu déjà hier. C'est Mida Keneged Mida. Et Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, selon l'enseignement de Rabbi Shmuel Bar Nachmani, vous suivez sur le texte. Vous l'avez dans le texte. Et Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Yonatan, Minaïn, chez Kolmudotav, chez la Kadosh Baruch Hu, Mida Keneged Mida, d'où savons-nous que toutes les mesures de Dieu sont mesure pour mesure? Chez Nehema, c'est d'après un texte que nous avons dans le livre des rois. C'est le livre des rois, le deuxième livre des rois, chapitre 7. Le prophète Elisha avait prophétisé une victoire pour Israël lorsqu'Israël avait été attaqué par ses ennemis, et puis il y avait dans le camp d'Israël des hommes qui ne croyaient pas dans le salut qui était prophétisé par le prophète Élie. Alors voilà ce que dit le prophète. Donc vous voyez le premier verset du chapitre 7 du livre 2 des rois. Omer Elisha, Elisha dit ceci, « Chinou de Marachem, écoutez la parole de Dieu, Kola Marachem, ainsi a dit Dieu, Karet Mahar, demain, c'est à Solov Beshek, on vendra la nourriture, le grain était assiégé, il n'y avait pas de nourriture, on vendra une mesure de farine pour un shekel, mais certains orim, et deux mesures d'orge Beshek pour un shekel, Beshar Shomron, à la porte de Shomron, de Samarie. Voilà la prophétie de Elisha. Or, il est écrit, Bayan Ashalish, un des capitaines, du camp d'Israël, qui appartenait au roi, Asher la Melech, Mish'an Ayadol Kisha Elohim, Bayomar, voilà ce que ce capitaine répond au prophète, Ine Hashem, Ose Arubot Bashamaim, est-ce que Dieu va ouvrir des greniers dans le ciel, il n'y a rien à manger, et voilà que le prophète dit, vous savez, demain, on vendra du blé pour pas cher, et de l'orge pour encore moins cher. Alors, l'intendant, dit, mais est-ce que tu crois au miracle? Et c'est le prophète qui parle. Alors l'intendant lui dit, mais il faudrait que ce soit un miracle. Aïe, d'Abarazé, est-ce qu'un miracle pareil est possible? Bah, Yomer, alors le prophète lui répond, vous l'avez la suite dans la Gomara. Inecha roe ve'enecha. voici que tu verras par tes yeux une chame en tochel et tu n'en mangeras pas. Vous voyez quel est le texte qui a été cité, c'est un texte donc terrible. Alors je mets cela très, très rapidement en forme. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de la Gemara, du principe de Mida Keneged Mida, comme nous l'avons appris dans ce texte de Elisha. Le fait n'avoir pas cru, eh bien, et nous savons que cette foi en triadamétique n'est pas simple. Il faut un surosement de la foi pour arriver à admettre l'invraisemblable. Mais cet invraisemblable n'est pas plus invraisemblable que le point de départ du récit biblique, que c'est Dieu qui a créé le monde. Si c'est Dieu qui a créé le monde, alors tout est possible. Et pas n'importe quoi, mais ce en soi, mon être profond à exigence, c'est-à-dire la survie. C'est-à-dire, donc, vous pouviez la survie, et que le monde est servi à quelque chose pour moi, donc la résurrection de la personne. Avant que ce genre de choses inouïes n'arrive, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc c'est une donnée de la Emouna. Mais cette Emouna, si vous voulez, n'est pas une Emouna invraisemblable, pas plus en tout cas, que le fait de faire partie d'Israël. Parce que c'est ça Israël, c'est une conscience humaine qui, par nature, sait que le monde a un sens. Donc il y a Olam Haba, donc il y a Triadamétique. Invraisemblable pour ma pensée, bien sûr invraisemblable pour ma pensée. Mais rien d'autre n'aurait de sens si ça n'existe pas. Ou je dirais, si on est encore d'une autre manière, si quoi que ce soit dans le monde a un petit peu de sens. Alors l'essentiel hein, a beaucoup de sens. Et l'essentiel, c'est moi. C'est-à-dire moi, l'homme, qui pose la question de ma destinée. Donc, on comprend bien que la difficulté, c'était la croyance dans Triadamétique, mais celui qui arrive à perdre cette évidence, dit de lui qu'il n'est plus hébreu. Alors la Mishnah dit de lui qu'il n'a plus révélé l'Olam Haba parce que c'est un hébreu. Est-ce que c'est suffisamment? Bon. Et voyez donc le mécanisme du principe Mida Keneged Mida. Je vais simplement vous donner une illustration et nous allons rentrer maintenant plus profondément dans le raisonnement.
On voit la faute aussi par rapport à l'autrui parce qu'il ignore
C'est ça, il est séduit Seigneur dans le prince.
C'est ça.
Élisée lui parle, et il dit à Élisée, mais quoi, tu crois bien? Mais Élisée, c'est le prophète.
Parce que qui ne croit pas, que ce soit une faute de croyance, à la limite, c'est pas gênant, mais c'est qu'il porte pas judice, puisqu'il met en faute la parole de l'autre, il ne l'entend pas. Il y a une faute dans le traitement de garde de l'humilité, là.
Oui, c'est une des dimensions de la faute d'identité.
C'est ça. Parce que limite, ça ne porte pas de sa personne, de ne pas croire. Enfin, on voit bien la relation.
Mettre en question l'éventualité de la parole du prophète, c'est priver le monde de sens. Le prophète sait qu'il a une mission périlleuse. C'est très important de voir que les illustrations qui nous sont données par la Gemara, dans ces soi-disant récits, des événements de la péripétie quotidienne. On ne va pas se référer à un raisonnement métaphysique. On va se référer à quelque chose qui est expérimental. Le monde n'a pas de sens si je n'ai pas à manger. Or, voilà, il y a la famille. Mais voilà que le prophète dit, eh bien, vous devez à manger. Et alors, la réaction consiste à dire, mais de quoi tu parles? Tu parles comme si le monde avait un sens. Mais le monde n'a pas de sens. Demain, il ne va pas manger, il va tout verra. Ça arrivera, tu le verras de tes yeux, et pour toi, il n'y aura pas à manger. Et on voit qu'il y a lorsque finalement le camp des ennemis, les ennemis ont cru que les Hébreux avaient la bombe atomique, ils se sont enfuis. Alors tout le camp des ennemis, plein de provisions, est resté disponible. Alors on a amené les sacs de blé et les sacs d'orge dans le camp d'Israël pour donner à manger aux affamés. Et qu'est-ce qui est arrivé, comme on dit ça? Il y a une sous l'autobachar, mais. On s'est précipité et alors on a écrasé le capitaine en question voilà comment ça se passe dans la vie, voilà comment ça se passe dans l'existence. Mida Keneged Mida. La Gemara va encore discuter sur ce principe, mais avant d'aller plus loin, je voulais simplement vous donner une illustration, vous montrer la référence. Vous voyez qu'au moment où le bilan de condamnation de la civilisation humaine qui a mené au déluge a été fait, l'humanité a eu un certain nombre de sursis. Je vous énumère très, très rapidement, en prenant l'histoire vers sa fin, lorsque le dernier des sursis donné à la civilisation comme telle est épuisé, alors Noé est interpellé, et Dieu le prévient que la catastrophe va arriver, et le charge d'appeler en repentir ses contemporains. Et il dit que les jours de l'homme sont comptés, il n'y aura plus que 120 ans. Ça ne veut pas dire que les hommes ne vivront que 120 ans d'âge, ça veut dire qu'il n'y aura plus que 120 ans, juste le temps de la catastrophe. Et il demande de construire une arche pour porter le témoignage, tout va mal, qu'est-ce que tu fais toi noir? Eh bien je construis l'arche à l'abri de laquelle je serai parce qu'il va arriver une catastrophe. Et il a exhorté les hommes à faire comme lui, mais il n'a pas réussi, comme vous le savez, personne n'a fait comme lui.